Bonjour, c'est Lucie, c'est le début de l'émission d'information locale et au menu aujourd'hui, l'info du jour, une unité pour les soignants en burn-out qui ouvre à Rennes. Deux interviews, d'abord avec France Nature Environnement Bretagne pour présenter les sentinelles de la nature, puis pour comprendre ce projet de court-métrage d'un groupe d'agricultrices engagées. Il y aura de la musique dont une nouveauté, et puis une recommandation, c'est le festival Hors Normes à Aïdé-Bazouge ce week-end. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Comme toujours, on commence avec l'info que j'ai retenue pour vous. Là, il s'agit de l'ouverture lundi 15 mai d'une nouvelle unité à la polyclinique Saint-Laurent de Rennes. Unité réservée aux professionnels de santé en situation d'épuisement, de burn-out quoi. Dès 5 ans d'ancienneté, on retrouve 20% d'infirmiers en burn-out. C'est le chiffre choc révélé par Vincent Lepage, cadre de santé de la polyclinique et responsable de cette nouvelle unité qui a confié ses propos auprès de nos collègues de France Bleu Armorique. Alors si la période de crise sanitaire a été un révélateur de l'épuisement des soignants, d'après Vincent Lepage, on peut être sûr que le malaise est plus ancien avec un secteur de la santé qui est en tension depuis de nombreuses années maintenant. Bref, il se trouve qu'une association parisienne financée par des agences régionales de santé et des fondations a l'objectif de créer un réseau de cliniques avec des dispositifs de prise en charge des soignants. La polyclinique Saint-Laurent de Rennes rejoint donc cette dynamique avec une unité qui va prendre en charge des soignants qui ont, je cite le responsable de l'unité, qui ont dans leur gène le besoin de s'occuper de l'autre. Ce qui est proposé aux soignants en situation d'épuisement, c'est une hospitalisation complète pendant 3 semaines avec un parcours de soins bien précis. Des soins psychocorporels seront proposés la première semaine avant une prise en charge psychothérapeutique et puis la dernière semaine un temps de conseil dans l'idée de retrouver un bien-être au quotidien. Sans vouloir être rabat-joie, si de retour au travail la pression est toujours là, pas sûr qu'une telle unité règle le problème colossal de l'épuisement au travail pour les soignants. C'est un peu un pansement sur une jambe de bois. Bon allez, après l'info du jour, c'est lors d'une première interview. Aurélie Le Goff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes salariée de l'association France Nature Environnement Bretagne et vous animez un réseau de sentinelles de la nature. Alors France Nature Environnement Bretagne, c'est en fait une fédération d'associations de protection de la nature qui a été lancée en 2017. Vous êtes combien d'assos aujourd'hui regroupés ?
Un peu plus de 140 avec principalement 8 associations régionales ou départementales, avec notamment Eau et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante, Vivarmor Nature, donc des grandes structures bien connues.
Vos missions, ce sont les suivantes: coordonner les actions des associations membres, peser sur les politiques régionales, diffuser aussi l'information auprès du grand public. Je voulais vous demander comment se porte une fédération d'associations telles que France Nature Environnement Bretagne, alors qu'on est dans un contexte où le sujet climatique, bon ça fait un petit moment, mais devient de plus en plus brûlant et surtout sans doute plus exposé médiatiquement, et puis dans une période aussi où certains militants environnementalistes connaissent des intimidations. Et puis on repense évidemment à l'épisode de Sainte-Soline, avec là une répression gouvernementale policière. Comment va France Nature Environnement ?
Bah bien sûr, on dénonce l'actuelle recrudescence des actes de vandalisme ou de violence à l'encontre, que ce soit des journalistes comme Morgane Large, mais aussi des autorités publiques à l'Office français de la biodiversité. Et globalement à toutes nos personnes engagées, nos militants qui au quotidien font face à des actes de vandalisme ou qui peuvent être pris à partie. Donc on essaye de défendre tant qu'on peut le fait associatif et nos militants.
On arrive à cet outil, le réseau Sentinelle de la Nature, qui a été créé à l'échelle nationale en 2017 et qui finalement est plutôt récent dans son fonctionnement actuel, puisqu'il a été fédéralisé en 2022 sur le territoire de la Bretagne. Concrètement, c'est-à-dire que c'est votre association, France Nature Environnement Bretagne, qui le pilote. Ce réseau, il se matérialise par une plateforme sentinelledelanature.fr. Il y a aussi des applications sur téléphone. N'importe qui peut y signaler une atteinte à l'environnement. De quelles atteintes on parle ?
De toutes les atteintes dans leur globalité, on peut avoir des signalements qui sont relatifs à la pollution lumineuse, aux pollutions de l'eau, aux dépôts de déchets. Ça va vraiment dans tous les domaines de l'environnement et il n'y a pas de question bête. Notre but, c'est aussi des fois de rassurer, d'expliquer qu'il s'agit des fois d'organismes vivants pas très jolis, tout simplement, et pas forcément de pollution. Donc on est là aussi pour rassurer et pour transmettre nos connaissances, puisque c'est un outil qui est porté donc par une fédération et donc animé par nos bénévoles et salariés qui vont avoir des connaissances du terrain localement ou alors de thématiques très précises.
Pour l'année 2022, on comptabilise près de 300 alertes, en fait, des alertes citoyennes mais aussi associatives. Et puis, il y a au sein de ce réseau une campagne qui est menée depuis le 16 mars et jusqu'au 15 juin, les Sentinelles de la Haie, pour alerter là sur un problème bien précis, la suppression du linéaire bocager dans une période clé en tout cas pour les populations d'oiseaux.
Exactement. On a essayé de reprendre les dates d'interdiction des coupes et des tailles de haies agricoles, qui sont aussi déconseillées pour les particuliers et les collectivités territoriales par l'Office français de la biodiversité, donc du 15 mars au 15 août. Il faut éviter impérativement de tailler sa haie pour protéger les oiseaux qui nidifient et puis toute la biodiversité.
Et ça permet de dire, de faire un clin d'œil à cette étude là qui vient de sortir, qui explique qu'en Europe, en tout cas, un quart des oiseaux ont disparu en lien notamment avec l'agriculture intensive, et les haies jouent un rôle important. On peut peut-être justement redire un mot sur l'utilité des haies au-delà de ce lieu pour la nidification des oiseaux, de ce que ça permet.
Oui, tout à fait. Ce sont des continuités écologiques. Donc, ce sont des autoroutes pour la biodiversité. Et avec cette disparition des haies, on voit que le paysage se fracture. Les animaux ne peuvent plus forcément se déplacer. Et il y a aussi beaucoup d'aspects qu'apporte la haie en matière de qualité ou de quantité d'eau. Lorsqu'il y a de grandes pluies, la haie va pouvoir freiner toutes les inondations, donc les petites crues. On va aussi voir du stockage, puisque c'est du bois, on va pouvoir stocker du carbone avec ces haies. On va pouvoir même plus largement avoir des effets pour l'agriculture. Par exemple, c'est un magnifique paravent pour l'ombre, pour le bétail, ou alors un brise-vent qui peut aller jusqu'à 15 fois la hauteur de la haie. En fait, un effet brise-vent. Donc, on voit que la haie est utile. C'est un outil multifonctionnel pour les agriculteurs aussi.
Alors, on parle des haies, mais le linéaire bocager, c'est un peu plus large que ça. Ça comprend aussi les talus, les chemins creux.
C'est ça. En fait, le bocage, c'est une spécificité de l'ouest de la France et aussi plus haut dans les îles, par exemple en Irlande ou en Angleterre. En fait, il s'agit du réseau de haies, le bocage des talus et aussi des chemins creux qui vont être autour des parcelles et qui sont une construction de l'homme qui nous apporte énormément de fonctionnalités.
Depuis le début de l'année, plus de 2400 mètres de linéaires bocagers ont été supprimés, ont été rasés en Bretagne. C'est en fait un mouvement qui est en cours depuis de nombreuses années. En 2008, il y avait 182 530 km de linéaires bocagers. En 2015, on passe à 114 500. On a l'idée que ce qui est supprimé, ce qui est rasé est replanté. En tout cas, c'est souvent un argument qui est mis en avant. On se rend compte, là aujourd'hui en 2023, que ça devient un réel problème, la suppression des haies et du linéaire bocager.
Oui, on a un très mauvais état des lieux jusqu'ici. On avait très peu de données puisque c'est compliqué. Et cette année, on a eu un rapport qui est assez affolant à l'échelle française cette fois. Donc c'est 23 500 km de haies qui disparaissent par an. Et on constate, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une augmentation. Sur la dernière tranche de calcul, donc 2017-2022, on voit une nette augmentation comparée aux tranches précédentes. Ce qui veut dire qu'il y a véritablement un mouvement qui continue. C'est pas juste le remembrement. C'est encore aujourd'hui, les haies disparaissent. Et une haie plantée aujourd'hui n'aura les effets sur l'environnement qu'à une haie actuelle qu'au bout de 30-40 ans, une fois que les arbres auront poussé.
Pourtant, il y a des mesures de protection, vous l'avez dit, une interdiction de la coupe de haies sur les exploitations agricoles aussi près des sites protégés sur la période mars-août. C'est une mesure qui du coup est insuffisante pour qu'il y ait beaucoup de linéaires bocagers supprimés.
Oui, en fait, pour l'instant, la réglementation est extrêmement morcelée. On va la retrouver dans le code de l'environnement, le code rural, le code de l'urbanisme. Plein de choses différentes qui peuvent protéger, dans certains cas, certaines haies. Mais nous, ce qu'on demande, c'est une protection globale de l'écosystème de la haie, du bocage, pour véritablement stopper cette régression et atteindre le zéro disparition de haies le plus rapidement possible.
Au-delà de la réglementation, il y a aussi l'application de cette réglementation avec, vous me le disiez hors antenne, pas assez de contrôle, pas assez de sanctions.
C'est ça. C'est pas forcément lié à un manque de volonté, mais c'est aussi un manque de moyens humains. On ne peut pas être partout, les autorités ne peuvent pas être partout, et on constate qu'il y a très très peu de sanctions et très peu de contrôles sur les sites. Par exemple, pour démontrer la destruction d'un habitat d'espèces protégées, ça nécessite d'avoir eu un inventaire dans la haie précédemment, donc ce qui est très très rare, et donc on a très peu de sanctions sur ce biais-là, alors qu'on a des disparitions de haies qui causent des disparitions d'espèces protégées.
Alors on peut, je redonne la plateforme pour pourquoi pas y mettre un signalement, sentinelledelanature.fr, c'est le site internet où retrouver ce réseau Sentinelle de la Nature. Je les cite parce que c'est grâce à cette association que j'ai vu cet outil apparaître, l'association Tuvalu Vitré qui a par exemple émis une alerte dans ce secteur de Vitré pas très loin de Rennes début mai où l'association a constaté une coupe d'arbres classés. Quelle réponse est donnée par l'association France Nature Environnement Bretagne, une fois qu'il y a un signalement? Là, il faut dire qu'il y a une cinquantaine, c'est ça, de signalements pour le moment sur le sujet des haies?
Exactement, depuis le 15 mars. Ça va dépendre véritablement de chaque cas. Le but de la plateforme, c'est de rendre chacun acteur de la défense de l'environnement. Donc notre premier objectif, c'est de vous expliquer les démarches à entreprendre. Qui contacter, quoi demander comme document qui peut être utile pour la suite. Et ensuite, on peut vous accompagner jusqu'au bout en fonction du cas. Si par exemple, on a une grave pollution de l'eau, on va pouvoir avoir Eaux et Rivières de Bretagne qui se mobilise et qui actionne ses propres contacts sur le territoire. C'est pour ça qu'on voit la véritable importance d'avoir des associations locales qui, comme Vitré Tuvalu, peuvent intervenir directement, ont les contacts directement en mairie et sont très actifs.
Parfois, ça peut aller jusqu'à la réhabilitation des milieux naturels détruits. Ça arrive assez rarement
C'est notre objectif principal, mais c'est vrai que c'est assez difficile, notamment en matière de haies, d'obtenir cela. Après, j'ai le cas en tête de Couffé, qui est en Loire-Atlantique, où il y a eu une condamnation par le tribunal d'un agriculteur qui avait détruit donc, notamment une haie, mais aussi des mares et une zone humide. Et il y avait une condamnation avec une obligation de remise en état qui avait été obtenue notamment par Bretagne Vivante.
Au-delà des signalements, l'idée c'est aussi de faire connaître des initiatives favorables à l'environnement. Alors elles apparaissent un peu plus modestement sur la carte que vous pourrez retrouver en ligne. Par exemple, en début d'année, il y a eu une opération de restauration d'un cours d'eau du côté de Donloup, menée par une association. Ça sert à quoi de répertorier ces initiatives favorables ?
C'est justement pour valoriser l'action de ces associations, comme là c'est Au Fil de l'Aigne. On essaye de montrer qu'il y a des actions citoyennes et associatives qui visent à protéger le vivant partout sur notre territoire. Et donc on essaye de les valoriser, aussi d'essaimer un petit peu ces bonnes pratiques et donner d'autres idées à ceux qui consulteraient notre site.
Je vois que le 24 mai, c'est très bientôt, à Rennes, il y a une formation pour devenir référent sentinelle. Qui est-ce qui peut devenir référent sentinelle ?
C'est en principe réservé à nos bénévoles, mais par contre, le 22 mai au soir à 17h, il va y avoir une présentation justement en visioconférence de la plateforme Sentinelle de la Nature. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y aura les liens sur nos réseaux sociaux.
Je vous représente Aurélie Le Goff, vous êtes salariée dans cette association France Nature Environnement Bretagne où vous animez un réseau qui s'appelle Sentinelle de la Nature. Il y a une campagne qui est donc en cours jusqu'au mois de juin qui s'appelle Sentinelle de la haie pour faire remonter des cas de destruction du linéaire bocager. Pour plus d'infos, il y a le site internet fne-bretagne.bzh. Vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux et puis on redonne la plateforme pour pourquoi pas émettre des signalements en cas de besoin. Sentinelle de la Nature.fr. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
if you insist to pretend. Put more ice in your cup and shuffle off into the dark. How could you be done when I've barely begun? Well, it's wonderful to settle down and reserve my strength for the end.
Boy, crazy.
Crazy par The Saxophones, une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par notre programmateur, Yann. Il s'agit d'un single qui est sorti le 10 mai chez Full Time Hobby, un extrait de l'album To Be A Cloud qui va sortir début juin. C'est le troisième disque de The Saxophones, un duo californien où on retrouve Alexis Erenkov et son épouse et percussionniste Allison Alderdis. Avec la présence quand même en plus de ça du bassiste Richard Lowes. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, peut-être en ligne sur canalb.fr, site où vous pouvez retrouver tous les podcasts de toutes les émissions animées par des salariés, mais aussi des bénévoles. C'est l'heure d'une deuxième interview. Bonjour Marie-Edith Massé.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes agricultrice à Melès, pas très loin de Rennes, et membre des L, un groupe d'agricultrices au sein de l'association ADACH 35, alors ADACH pour agriculture durable par l'autonomie et la gestion économique. Et vous organisez une projection débat ce mercredi à 20h, ça se passe au Dancing de la Touchette à Saint-Germain-sur-Île. Alors il se trouve que l'association ADACH, elle fête ses 30 ans cette année. C'est une structure qui fait partie des CIVAM. Les CIVAM, ce sont des centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, c'est un mouvement d'éducation populaire. Ce qui vous réunit chez ADACH, pour expliquer ça aux auditeurs, c'est de défendre le système herbager, c'est vraiment le cœur de l'association ?
Oui, oui, c'est vraiment le cœur de l'association. En fait, ce qui anime les adhérents de l'ADACH, c'est de réussir à avoir une production laitière, parce qu'on est essentiellement sur un système bovin laitier, Et l'idée, c'est de sortir des schémas maïs, soja et de la dépendance aux semences et aux aliments extérieurs pour nourrir les vaches avec de l'herbe pour acquérir un maximum d'autonomie, en fait. L'idée, c'est qu'on part du sol, de combien notre ferme elle est capable de produire d'alimentation, et c'est ça qui fait le nombre de vaches que l'on a sur nos structures.
C'est le moment où on dit un mot sur votre parcours qui est quand même particulier. À 40 ans, j'ai lu que vous avez lâché votre boulot de comptable pour reprendre la ferme de vos parents, un élevage laitier donc, et vous avez ensuite choisi de passer le pas vers la bio.
C'est ça. Alors je dis souvent que depuis que j'ai 5 ans, je dis que c'est moi que je trairai les vaches quand je serai grande. Et voilà, et ben je pense qu'à 40 ans, des fois, on est grand. Et que
il était temps.
Et qu'il était temps, voilà. Moi, j'avais un travail de comptable en cabinet d'expertise comptable dans lequel j'ai passé 15 ans. Et voilà, non pas que ce métier ne me plaisait plus, mais j'en avais fait le tour. Et puis j'avais envie de grand air. Donc j'ai repris l'exploitation laitière de mes parents.
Aujourd'hui, vous avez combien de vaches sur votre exploitation ?
J'ai 50 vaches laitières. 60 hectares et je travaille avec un salarié.
Un mot en plus sur l'association ADAGE, donc ADAGE pour agriculture durable par l'autonomie et la gestion économique. Sur les missions de cette structure, il y a surtout un gros volet formation.
On va dire que les principes de l'ADAGE, c'est les principes de l'éducation populaire. Et donc, c'est le savoir partagé, c'est pas du savoir descendant, en fait. On fait pas des formations, on fait des formations avec des apports techniques des fois, mais on fait surtout du partage de pratiques et des échanges entre pairs pour savoir, mais comment tu fais ça, attends, comment ça marche chez toi, est-ce que je peux venir voir, enfin voilà. Et donc ça, c'est super intéressant parce que ça crée beaucoup de réseaux. Et ça fait qu'on n'est pas tout seul sur nos fermes et que des fois on se dit zut, pourquoi ça marche pas chez moi, puis en fait on s'aperçoit que ça marche chez personne, et donc on se dit tiens, si on travaillait là-dessus pour essayer de voir comment on peut résoudre ce problème-là.
Et il y a combien d'agriculteurs aujourd'hui pour ADAGE 35 en Ille-et-Vilaine?
Aujourd'hui il y a environ 120 fermes, alors à une personne, deux personnes ou trois personnes par ferme, mais c'est la ferme qui est adhérente à l'ADAGE, c'est pas les gens. Et les groupes qui se réunissent, ils se réunissent à échelon géographique, en fait. Donc, il y a 8 groupes. Il y en a un qui est sur la région de Fougères, un autre sur la région de Bain-de-Bretagne, un autre Rennes. Enfin, voilà.
Donc, avec des groupes territoriaux. Et puis, on arrive à ce groupe des L au sein de l'association ADAGE d'Ille-et-Vilaine. Vous êtes 15 participantes aujourd'hui. Le point de départ, c'était en 2017. Vous étiez là. Il y a eu le constat qui a été dressé que les femmes, finalement, participaient assez peu aux formations qui étaient proposées à l'ADAGE.
C'est ça. En fait, le constat qu'on a fait, c'est de se dire, mais en fait, combien il y a de femmes à l'ADAGE? Combien il y a de femmes installées? Parce qu'en fait, il y a des fermes qu'on identifiait, on ne voyait que l'homme, et limite, on ne savait même pas que la femme, elle était installée. Donc, on s'est dit, tiens, si on se comptait, si on essayait de voir c'est quoi nos rôles, c'est... Voilà. Et en fait, le groupe, il a commencé comme ça, où chacune est arrivée et a partagé son expérience, en fait, en disant, ben voilà, moi je travaille comme ça, la répartition des tâches chez moi, moi je fais la traite, je m'occupe des petits veaux, voilà, mais des fois, c'est lourd, j'aimerais bien que ça change, je fais pas de tracteur, mais en fait, j'ai jamais appris à faire du tracteur, donc forcément, je fais pas de tracteur. Et du coup, ce dont on s'est rendu compte, c'est que mais des fois, que c'est pas grave en fait, si les tâches elles sont genrées, à condition qu'elles soient assumées et discutées. En fait, moi, ça me pose pas de problème qu'une femme elle décide de faire que la traite et soigner les petits veaux, ça c'est pas un problème. Mais à condition qu'on vienne pas lui reprocher après de ne faire que la traite et que de faire que soigner les petits veaux.
Si on parle de répartition des tâches, c'est que ce qui vous travaille, c'est le sujet des inégalités hommes-femmes dans le secteur agricole, on le comprend. Je voulais juste rappeler que pendant longtemps, les femmes, elles n'ont pas eu de statut dans les fermes. Elles aidaient leur mari. Aujourd'hui, elles sont soit conjoints collaborateurs, mais de moins en moins. Ce statut, il finira sans doute par disparaître. Elles sont surtout chefs d'exploitation et elles représentent un quart de la profession, ces femmes. Comment est-ce qu'elles s'expriment aujourd'hui, les inégalités femmes-hommes dans une ferme aujourd'hui? On le comprend sur la répartition plus ou moins genrée des tâches. Est-ce que vous voyez d'autres façons dont elles s'expriment?
Eh ben, en fait, une des difficultés, c'est souvent à l'installation. Parce que, en fait, vous venez de dire qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont chefs d'exploitation. que le statut de conjoint collaborateur tend à disparaître, et j'ai envie de dire c'est tant mieux, mais le biais que ça comporte, c'est qu'aujourd'hui, dans une installation à deux, c'est toujours l'homme qui s'installe le premier, la femme continue à travailler sur la ferme en touchant ses indemnités de chômage, parce que souvent elle a quitté son emploi, mais c'est jamais l'homme qui fait ça, en fait. C'est jamais la femme qui s'installe d'abord, et puis l'homme après. C'est rarement, mais c'est plutôt très souvent, bah tiens, on va s'installer tous les deux, mais comme on n'a pas les moyens de rémunérer deux personnes au début, eh ben l'homme il va s'installer, puis la femme elle va aider. Voilà. Donc elle va aider, mais sans statut, donc sans reconnaissance. Et ça va induire que après, auprès des banques, enfin, auprès de différentes institutions, auprès des voisins, auprès déjà le métier il est très genré et il est très masculin, mais si en plus la femme elle arrive une fois que tout le monde est installé, forcément, sa place à elle, elle est d'autant plus compliquée.
J'imagine que l'arrivée d'un enfant a un impact, là aussi, plus fort sur les femmes agricultrices.
C'est ça. C'est que pour un peu que derrière cette année de chômage où j'ai aidé mon conjoint, je me retrouve enceinte et que du coup, en congé mater, et puis que bah, finalement, c'est quand même plus facile que la femme, elle reste à la maison et qu'elle s'occupe des enfants pendant que son conjoint est dehors à travailler dans les champs. Voilà. Donc, en fait, dans le travail qu'on fait avec les ailes, c'est vraiment ça, c'est de se dire, on sait que la profession agricole, c'est pas que un métier, mais c'est aussi une vie. Une organisation d'une vie. Et donc, nous, on milite, on demande que les tâches ménagères, entre guillemets, soient incluses dans la charge de travail. Et donc, ça veut dire que, par exemple, on répartit que qui c'est qui s'occupe des enfants le matin pour les emmener à l'école, qui c'est qui va les chercher le soir, qui c'est qui prépare à manger, qui c'est qui fait le linge, qui c'est qui fait la vaisselle. Et ça, comme en fait la vie, si on arrive à l'inclure dans le temps de travail, eh ben on n'a pas une surcharge supplémentaire de le soir de faire ce travail-là. Nous on bosse aussi le week-end. Donc à un moment il faut rentrer la vie familiale dans la vie de travail, sinon c'est trop compliqué à gérer.
Et donc là vous faites allusion à la fameuse double journée de travail qui attend encore aujourd'hui les femmes quand elles ont fini leur journée professionnelle. Votre groupe d'agricultrices, vous êtes donc 15 participantes. Ce groupe se retrouve donc en non mixité à raison de 5 ou 6 journées par an. Vous avez plein de projets en tête, je lis, proposer plus de formations non mixtes, échanger sur les pratiques, intervenir en milieu scolaire, proposer aussi des événements citoyens, c'est un peu le cas là ce mercredi soir. Vous en êtes où dans tous ces projets là lancés depuis 2017?
Alors depuis 2017, il y a vraiment une chose à laquelle on s'attache très régulièrement, c'est les interventions en milieu scolaire et en formation professionnelle. Parce que ben on se dit que si on veut dégenrer les tâches, il faut commencer avant l'installation. Et ce qui nous anime, c'est tout à l'heure je disais que en fait le tracteur par exemple qui est un élément très stigmatisant, parce que en fait formation agricole, la technique s'acquiert sur les lieux de stage. Mais le problème c'est que si une fille elle va en stage et qu'elle n'a pas jamais eu une notion de conduite de tracteur, et ben d'instinct déjà les femmes font que quand elles s'assoient généralement elles y vont moyen, mais en plus d'instinct le maître de stage il va dire va plutôt faire ça, moi je vais aller faire les travaux des champs. Et en fait les filles elles peuvent très bien à diplôme égal avoir une formation inégale, parce qu'elles peuvent très bien sortir de formation sans jamais avoir mis les pieds sur un tracteur.
Une autre question sur une des réflexions qui vous anime dans le groupe des L à l'ADACH 35. Je lis sur le site du réseau CIVAM, dont vous êtes membre, que vous souhaitez explorer le lien entre genre et agroécologie, parce qu'il a été observé que les femmes, culturellement, sont plus souvent à l'initiative des changements de pratiques vers des systèmes plus durables, systèmes plus durables que vous défendez là avec la question du système herbager.
Oui, complètement. Nous, on entendait toujours dire que les transitions agroécologiques, elles venaient souvent par les femmes. Et on a voulu vérifier ça, en fait, en se disant, bah, est-ce que c'est juste un dire ou est-ce que c'est vrai? Et donc, on a travaillé avec une personne en école d'ingénieur et qui a fait son stage de fin d'études au CIVAM et qui a justement mené des enquêtes et des bibliographies, travaillé avec une sociologue et, pour essayer de documenter ce sujet. Et une des conclusions qu'on en tire, c'est que, alors je mets bien des guillemets parce que c'est sûrement pas la seule, hein, mais qu'une des raisons pour laquelle la femme pourrait être actrice de transition écologique, c'est parce que de tout temps, on lui a confié ce qu'on appelle aujourd'hui le care, donc en fait c'est le soin, en fait, le soin aux gens, l'attention aux gens, toute l'empathie. Et donc on a dédié ça aux femmes, mais c'est pas, enfin pour moi c'est pas génétique, pour moi c'est la façon dont on a été éduqués.
C'est culturel.
Voilà. Et donc en fait c'est ça qui fait que généralement à la naissance du premier enfant, on commence à changer les alimentations, à faire attention à ce qu'on met dans les assiettes, etc. Et du coup, souvent c'est comme ça que arrivent les changements de fonctionnement.
On arrive à l'actualité qui nous intéresse. Vous avez sollicité la compagnie Ocus, qui est une compagnie installée à Saint-Germain-sur-Ille, au nord de Rennes. Et ensemble, donc avec le groupe L de l'Adage 35, vous avez réalisé un court-métrage un peu sous forme de clip musical. Ça s'appelle L'Invisible Gronde. Et vous avez donc donné de la voix. Il sort d'où ce projet ?
Alors, ce projet, il sort que, donc tout à l'heure, quand je parlais du début du groupe des ailes, en fait, c'est devenu un groupe de parole où chacune, on a commencé par tout vider notre sac. Avant de commencer à construire d'autres projets, il fallait qu'on dise ce qu'on avait sur le cœur et comment on ressentait, comment on vivait les choses. Et de tout ça, on s'était dit, un jour, il faudra qu'on le dise. Un jour, il faudra que cette parole, elle soit publique. Et en 2021, on s'est dit que ce serait bien à l'Assemblée Générale de l'ADAS qu'on puisse dire, parce qu'il y avait aussi beaucoup de questions de la part des paysans adhérents, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait bien se dire dans un groupe non mixte. En fait, dès qu'on parle de groupe non mixte, on lève des interrogations, voilà. Et donc on s'est dit, bon voilà, ce serait intéressant à cette Assemblée Générale qu'on puisse dire. Sauf qu'on savait pas le dire et puis on n'est pas voilà, on n'avait pas envie de quelque chose qui soit un peu juste du raconter. Et puis après on s'est dit que peut-être ce travail que l'on voulait faire pour l'Assemblée Générale, eh ben ça pouvait servir à vulgariser aussi après. Mais sauf que comme on est paysanne, on n'a juste pas le temps de monter une pièce de théâtre, par exemple.
On peut comprendre.
Et donc en fait, on a fait appel à la compagnie Ocus. Alors moi, je connaissais leur talent de faire émerger des paroles et ensuite de les réécrire et sous forme de slam justement. Et donc on a travaillé avec Claire Laurent de la compagnie Ocus et Maëlle Bergeau qui elle est une médiatrice, voilà, je pense que c'est le terme plus juste. Et donc avec elle on a écrit, réécrit tout ce qu'on avait dit et ensuite on l'a mis en musique. Et donc c'est pas vraiment un court métrage, ou alors c'est un très très court métrage, ça doit dire 3-4 minutes, mais c'est plutôt un slam, un clip vidéo en fait.
Donc un clip vidéo derrière lequel on imagine qu'il se cache donc un travail d'écriture mais aussi d'animation et puis d'enregistrement en vidéo.
C'est ça,
ce court métrage, le public peut venir le découvrir à Saint-Germain-sur-Ille ce mercredi 17 mai à partir de 20h. Ça se passe au Dancing de la Touchette et la projection sera suivie d'une table ronde. Ça va ressembler à quoi ?
Alors, la table ronde, en fait, on a voulu inviter des collègues à nous qui n'étaient pas forcément paysannes, et donc, mais qui, par contre, étaient sur des métiers dits genrés. Donc, on a une ébéniste, une électricienne, une mécanicienne qui interviendront sur elles, comment elles vivent le genre dans leur métier.
Je vous représente Marie-Edith Massé, vous êtes agricultrice à Melès, près de Rennes, et membre des L, un groupe d'agricultrices au sein de l'association Adage 35, Adage pour agriculture durable par l'autonomie et la gestion économique, qui organise donc une projection débat ce mercredi à partir de 20h à Saint-Germain-sur-Ille. Pour plus d'informations, on peut vous retrouver en ligne sur une page Facebook dédiée à Adage 35 et puis sur le site internet civam.org. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Tu n'entends pas, la planète crie. Ton vieux modèle a tout détruit. Depuis la nuit des temps, on veut que je prenne soin. Et patron, il est temps qu'on se donne la main. Sœur du silence, sortons de l'ombre. Vous entendez ? L'invisible gronde.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues, mon amante, comme une ivresse obsédante.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme.
Avec le morceau De mon âme à ton âme sur Canal B. C'est un titre qu'on retrouve sur l'album Traumhound Existence, qui est sorti en 2019, pardonnez mon allemand. L'unique album de ce duo néo-post-punk composé du compositeur Vitalik et de Rebecca Warrior, membre de Sexy Sushi et Mansfield Tia. Vous êtes dans l'arène, l'émission d'information locale de Canal B. On va poursuivre et terminer avec la recommandation du jour. Pour la recommandation du jour, on prend un petit peu d'avance pour annoncer un festival en milieu naturel. C'est la 3e édition d'Hors Normes et ça se passe à Aide-et-Bazouges au nord de Rennes, vendredi 19 et samedi 20 mai. À l'organisation, on retrouve l'association des CIM qui propose là un festival tout public entre le canal d'Ille-et-Rance et l'étang de Bazouges sous Aide. Les festivités, elles débuteront le vendredi soir dès 19h avec une soirée en mode guinguette DJ set en compagnie d'un DJ et producteur lyonnais qui s'appelle DJ Elestre. Ça, c'est à prix libre. Et puis au programme du samedi soir dès 17h, un spectacle et des concerts. Le spectacle, il s'appelle La dernière danse de Monique, de la compagnie La Choupa Choupa. Un solo dramatico-burlesque en patin et sur les mains, ça promet. Pour la musique, vous retrouverez ensuite sur scène les groupes Motitei, Passion Coco et Schizophonique. Les tarifs pour la soirée, ça va de 5 à 10 euros. Le lieu de rendez-vous, c'est le lieu dit La Guénaudière à Aidé-Bazouges. On ne l'a pas dit, mais il y a un bar et de la restauration sur place. Pour plus d'infos sur cette troisième édition du festival Hors Normes, direction la page Facebook de ce festival. Et puis, il y a une adresse email que je vous donne, hornorme35@gmail.com. L'arène, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.